Alors bonjour Annette, Hugues et Camille Lucher, merci d'être là. On est au Lip sur les quais, on est dimanche 8, presque à la fin. Et on est tout seul dans une salle qui va bientôt être vide, mais pour l'instant elle est pleine de personnes intéressantes et de bonnes cités. Alors on va parler de votre dernier livre, mais votre premier livre traduit en français, Révolution aux confins, mais qui s'appelle en allemand...
Wilhelm Tell in Manila.
Alors, justement, ce livre « Révolution aux confins », Wilhelm Tell in Manila, et si vous devriez les résumer en quelques mots, comment les résumeriez-vous?
Voilà une histoire d'un voyageur et traducteur. Il s'appelle José Rizal. Il est aujourd'hui connu comme l'héros national des Philippines. À l'époque, il était un jeune homme, un médecin, écrivain, qui séjournait en Allemagne. Et là-bas, il s'est mis à traduire une œuvre du grand poète allemand Friedrich Schiller, une pièce de théâtre qui s'appelle Guillaume Tell. Et Guillaume Tell, on sait bien, c'est l'héros national de la Suisse. Et pour moi, c'était très génial de trouver cette traduction historique parce qu'elle lie les deux pays qui sont le plus proche de mon cœur. Je raconte l'histoire de ce voyageur et l'histoire de sa traduction qui est une voyage aussi, parce que à travers la traduction, Rizal a créé un paysage tropique alpine et ça m'a beaucoup plu.
Il y a un peu de l'hybridation des paysages et des langues. Donc, pour cela, vous avez dû apprendre le tagalog. Vous l'avez appris avant ou pour le livre?
J'ai appris le tagalog à l'époque parce que j'ai fait mes études aux Philippines. Alors, j'ai passé 3 ans là-bas quand j'étais assez jeune. Alors, j'ai appris le tagalog ou le taglish même quotidien. Et pour ce livre, j'ai dû apprendre un tagalog beaucoup plus profond, un tagalog littéraire.
Et donc, est-il vrai, comme on s'est laissé dire, que vous avez fait quelque chose de complètement incroyable, de traduire à l'envers les Guillaume Tell du tagalog vers l'allemand ou vers le suisse allemand?
Non, vers l'allemand. Vers l'allemand. J'essaye de traduire l'hip-hop, le rap tagalog qui est merveilleux. Et là-bas, je dois le traduire en suisse allemand. Mais ici, c'est vraiment le tagalog profond qui devient l'autre allemand. Oui. Oui, j'ai fait cette rétraduction et je n'ai pas lu. Schiller, ou pas relu. Alors j'avais le cerveau fraîche et je pouvais comparer ma rétraduction avec l'original de Schiller et je voyais les différences. Rizal a essayé de traduire à la lettre, vraiment. Mais de temps en temps, il a fait des déviations. Et c'est très intéressant. Pour moi, c'était passionnant de m'imaginer qu'est-ce qu'il a pensé ce mec. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que le lac de 40 ans devient une mer de 40 ans? C'est alors des choses comme ça. Et à travers ces hypothèses, son caractère s'est développé dans mon imagination.
C'est ce qu'on fait. C'est la création, mais c'est aussi trouver des mots qui n'existaient pas. Ça s'appelle les réalias, non, dans la traduction, quand on doit créer des mots qui n'existaient pas. Et Camille,
Les réalias, c'est oui le mot un peu technique pour la traduction, pour parler des mots qui sont très liés à une réalité culturelle et qui ne sont pas traduisibles telles quelles. Et il faut trouver des mots. Et c'est vrai que Annette Hugues, dans son livre, raconte comment José Rizal va inventer des nouveaux mots pour, par exemple, décrire l'avalanche, qui est un réalia, qui correspond à la réalité géographique et écologique de la Suisse, mais qui ne correspondait pas aux Philippines du XIXe siècle, et où il invente une composition pour une imagée en fait pour décrire l'avalanche comme une inondation de neige. Mais parce que José Rizal, en faisant cette traduction du Guillaume Tell de Schiller, peut-être qu'Annette peut en parler un peu plus, mais travaille à la construction d'une langue. Il n'y a pas beaucoup de littérature en tagalog à cette époque-là. Et il souhaite aussi construire une littérature par, pour son peuple, pour le peuple tagal. Et donc, il fait cette démarche que beaucoup de traducteurs ont fait, où les traductions viennent enrichir une littérature et enrichir une langue, et donc aussi une certaine, peut-être, description du monde.
Et puis, donc, c'est aussi une fonction, non seulement littéraire, donc, mais une fonction aussi politique, la traduction, parce que ce n'est pas par hasard qu'il choisit Guillaume Tell.
Oui, certainement, parce que le mouvement pour l'indépendance des Philippines avait commencé. Rizal n'était pas vraiment convaincu qu'il devrait chercher l'indépendance. Il a rêvé aussi avec les républicains fédéralistes d'une Espagne démocratique et fédérale, avec les Philippines comme cantons. Il y avait les cantonalistes espagnols. Écho avec la catalane, la Galicia, l'Andalousie. Oui, et c'est... Alors, mais oui, par exemple, le mot Kalayaan, qui aujourd'hui est le mot clé, que ça veut dire liberté, mais en même temps indépendance. Il avait oublié ce mot parce que c'était un néologisme utilisé par un autre traducteur qui était très très bon en tagalog, beaucoup mieux que lui en tagalog. Il s'appelait Marcelo Hidalgo del Pilar, et lui il avait beaucoup utilisé ce mot Kalayaan, et qui a remplacé Aliktasan, qui était un peu qui ça veut dire on enlève la lèche d'un chien, quoi.
La laisse.
Oui, la laisse d'un chien. Alors, c'est ce, on voit aussi, on peut lire ce document, cette traduction, comme un des documents où un langage nationaliste, un langage de politique moderne naît.
Donc, c'est aussi comme un élément d'identité nationale, quelque sorte.
Oui, certainement. Le mot Kalayaan appartient à l'identité de ce mouvement d'indépendance qui est devenu fondateur pour l'État d'aujourd'hui.
Peut-être juste une précision, parce que le mot peut être aujourd'hui mal compris, mais on est à la fin du 19e siècle, et quand on parle de nationalisme, c'est la construction d'une nation dans ce sens-là à prendre.
Oui, tout à fait. Justement, la traduction, c'est très important, parce que ça permet, dans ces cas-là, de créer une langue, mais en Suisse, ça permet justement aussi, d'une certaine manière, de faire la cohésion nationale, quand vous traduisez des Suisses allemands en français.
Oui, bien sûr. C'est l'une de mes principales tâches dans la vie, de travailler à cette cohésion nationale. En traduisant des auteurs ou des autrices suisses vers le français. Et en même temps, il s'agissait dans ce livre-là de désuiciser le Guillaume Tell à Manille. Alors, vous l'avez évoqué en ouverture, le fait que le titre en français est très différent, en fait, du titre en allemand. En allemand, donc, c'est Wilhelm Tell in Manila, littéralement Guillaume Tell à Manille. Ce qui sonne très bien et est une jolie possibilité. En français, on a décidé de l'appeler « Révolution aux confins » pour mettre l'accent en fait sur un élément très important du Guillaume Tell de Schiller et central dans le livre d'Annette Hug, la question de la révolution, la question de qu'est-ce qu'une révolution ? Est-ce que l'usage, ça a déjà été un peu évoqué, mais est-ce que l'usage de la violence est justifié pour mener une révolution ? qui mène la révolution et pour qui. C'est des questions qui sont déjà très très présentes chez Schiller. Friedrich Schiller qui écrit le Guillaume Tell sans avoir jamais mis un pied en Suisse et en fantasmant une Suisse, mais en fait qu'il écrit pour réfléchir à la question de la révolution en réaction à la révolution française qu'il avait soutenue au début, à laquelle il avait été associé, en tout cas intellectuellement, et qui lui laisse une drôle d'impression et qui le préoccupe beaucoup. Il a été assez choqué par la terreur et la violence de la faim. Mais tu veux ajouter quelque chose?
Oui, vraiment, il était dévasté par l'époque de Robespierre. Et c'était... en école en Suisse, on apprend les quelques scènes emblématiques, patriotes de cette pièce, mais et on enlève les autres qui sont beaucoup plus critiques. En lisant Schiller à travers de Rizal, qui avait beaucoup de doutes sur la question des violences, j'ai vu que cette pièce est beaucoup plus
complexe
et contradictoire, et que c'est vraiment une réflexion critique à la violence. Il y a des, il y a une espèce de dialectique que j'ai manqué, et qui est manqué dans le discours patriotique suisse. Alors c'est vraiment grâce à Rizal que je me suis intéressée encore une fois à Schiller et au Guillaume Tell. Okay. Il est devenu beaucoup beaucoup plus passionnant comme héros philippin que comme symbole patriote suisse.
Ouais, c'est une des choses que j'ai trouvé fascinante dans le livre, c'est ces détours, comment on arrive à des points. Ça fait, c'est une sorte de cheminement complexe pour s'approcher plus de ce qui est près de chez nous. Parfois, il faut partir un peu comme Ulysse, quoi, comme quand on fait le voyage pour revenir à Ithaque.
Oui, peut-être.
Cela aussi, la révolution, ce n'est pas seulement cette révolution prévue, mais c'est aussi ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a aussi dans les livres des choses au niveau de l'électricité, de la médecine, des découvertes, donc ça aussi des révolutions.
Oui, exactement. Pour moi, c'était la deuxième découverte, c'est cette Allemagne que je ne connaissais pas. Il a fait des études à un moment où l'Allemagne était un des puissances scientifiques dans le monde. Il y avait Hertz, l'invention ou la découverte des ondes électromagnétiques. Mmh. Et comme ophtalmologue, il était impliqué à ça parce qu'on savait bien déjà qu'il y avait quelque chose d'électrique qui se passe dans l'œil. Mais on ne savait pas exactement comment ça marchait parce que Helmholtz et Hertz, et dans ces espaces, on n'avait pas encore vérifié que la lumière est une onde électromagnétique. Alors, ce sont des choses assez techniques, mais ça revient, par exemple, quand Rizal, il rêve de sa mère, souvent. Et il écrit une lettre, il dit j'espère, j'ai l'impression qu'il y a une onde secrète qui lie Leipzig à Manille, et quand la mère pense à son fils, il est choqué, il se réveille d'un coup. Alors j'ai pensé, mais c'est la télépathie ou quoi? Mais non, quand j'ai lu les papiers scientifiques de l'époque, j'ai vu qu'il y avait les ondes partout. C'était l'obsession des ondes, d'électricité, de magnéto-électrique, de tout ça. Et c'était, j'ai vu comment il était vraiment un contemporain de ces grandes découvertes scientifiques qui sont fondateurs pour nos jours.
Exactement. Puis là, au niveau de l'ophtalmologie aussi, ça parle aussi à la bibliothèque sonore, étant donné qu'on travaille pour des personnes qui ont des problèmes de la vue, donc il se trouve qu'elle aussi était ophtalmologue.
Oui.
Et puis, donc, vous avez entré en contact comment avec les livres d'Annette Hugues, Camille?
Alors, moi, j'ai découvert ou été attirée, ça va être paradoxal par rapport à ce que je disais, mais en fait, non, pas du tout. J'ai découvert ce livre parce qu'il s'appelle Guillaume Tell Amani et que j'avais traduit le Guillaume Tell pour les écoles de Max Frisch et que... lorsque Annette Hugues a gagné le prix suisse de littérature en 2017 pour ce livre, j'ai vu passer le titre et j'ai demandé à en traduire l'extrait que fait traduire la Confédération à ce moment-là. Voilà. Parce que je me suis dit que ce livre m'intéressait par son titre, par son lien avec Guillaume Tell, que j'avais fait beaucoup, beaucoup de recherches pour traduire le Frisch et que j'allais pouvoir les exploiter, toutes ces recherches, et les utiliser pour une nouvelle traduction. Et puis finalement, j'ai trouvé... découvert ce texte absolument passionnant, riche, multiple, complexe, avec plein de dimensions qui dépassent, surpassent, mais aussi subliment le Guillaume Tell, comme on l'a évoqué, avec cette relecture du Guillaume Tell de Schiller que nous permet le roman d'Annette Hugues, parce que c'est un roman, vraiment aussi. C'est, on suit et on s'attache à ce jeune personnage de José Rizal, à ce jeune homme... qui souffre de la solitude en Allemagne, qui cherche qui est extrêmement curieux, d'une très grande vivacité intellectuelle et qui se sent souvent, heureusement pas toujours, mais souvent assez peu considéré par les Européens et les intellectuels avec lesquels il peut entrer en contact par racisme. Voilà, donc il y a aussi vraiment c'est un roman, c'est un roman aussi qui parle de traduction, et ça, en tant que traductrice, ça m'a beaucoup plu aussi. Il y a des scènes qui évoquent les recherches de José Rizal pour trouver un mot, pour s'approprier une image, comprendre, et je m'y reconnaissais complètement dans mes propres démarches. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé, et puis... adoré ce texte et que j'en ai parlé aux éditions Zoé et qu'il a été publié maintenant ces jours. Dans cette...
Pour notre plus grand bonheur. Et puis vous, quand vous avez commencé les livres, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait des grandes recherches avant de commencer à rédiger ou bien vous avez commencé, quel est le processus dans la création de votre livre?
Oui, je dois me souvenir... Oui, c'était. J'ai travaillé. Oui, pardon. Tu le sais?
Non, non. Ce que je voulais dire, c'est que quand on a beaucoup dialogué aussi pendant la traduction, j'ai eu la chance de pouvoir poser énormément de questions à Annette et de parler de plein de choses. Et on s'est rendu compte à un moment donné. Tu m'as dit, quand je te parle, je me rends compte que chaque phrase a été tellement travaillée et vient de tellement de recherches. Et je trouve qu'il y a dans son écriture. Aucun didactisme et un très grand naturel, mais qu'on sent effectivement une intelligence qui sous-tend tout le texte. Voilà, ça je le dis parce que tu vas pas pouvoir parler de...
Oui, merde. Oui, non, j'étais un peu inondée par les matériaux. Il y a 50 biographies de José Rizal. Dans une librairie philippine, il y a beaucoup des livres anglais et un coin de Filipiniana. Et dans cet coin de Filipiniana, il y a la Rizaliana. Alors, il y a un montant des livres et des recherches. Et la même chose, ou même plus, sur Schiller, en allemand, parce qu'il était... Oui. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais? Alors, je ne peux pas tout lire. Alors, j'ai commencé à lire les sources premières. Pas vraiment beaucoup des sources secondaires, mais vraiment les textes en espagnol, les écrits de Rizal, des choses comme ça. Alors, des livres qu'il a lus, parce qu'il avait un ami autrichien, avec lui, il a échangé des lettres pendant ce temps, et Blumentritt lui a dit, lis ce livre. Va à la bibliothèque à Berlin et cherche ce livre. Et Rizal a répondu, qu'est-ce qu'il a pensé de ce livre? Ah, c'était génial, ces sources. Alors, j'ai lu les livres qu'a lu Rizal quand il a travaillé. Alors, et après, j'ai Mais je dis, je ne peux pas tout inclure dans ce livre. Et c'est exactement cette rétraduction qui m'a sauvée. Parce que là-bas, j'ai fait la décision que je vais seulement inclure des informations qui ont un lien avec un motif important au Guillaume, dans la traduction. Par exemple, les yeux.
Les yeux.
Les yeux. Parce que il y a ce caractère de Melchthal. Et le père de Melchthal est... comment ça veut dire?
On lui perce les yeux.
On lui perce les yeux.
Tout à fait.
Alors, il devient aveugle.
Ouais.
Et Rizal a peur que sa mère va être aveugle. Alors, cette peur d'être aveugle, cette menace des yeux,
ouais,
est très importante. Alors, j'ai tout inclus qui appartient à l'ophtalmologie, à les yeux et tout ça. Et j'ai laissé à part quelque chose qui sont historiquement peut-être plus importants, plus connus. Mais c'était pour moi une logique poétique de vraiment partir des motifs.
D'ailleurs, il y a un lien, parce que d'une certaine manière, traduire, c'est donner à voir. Non, c'est un peu un lien avec les yeux. C'est un peu ça.
Oui, c'est vrai. Traduire, c'est donner à... Écrire, déjà, c'est donner à voir. Écrire, c'est donner à voir, trouver les images, trouver un langage pour transmettre des images. Ouais. Mais ces motifs des yeux, c'est un des motifs, et c'est très fort aussi d'arriver à tourner comme ça, à faire des liens poétiques, justement, entre José Rizal, sa quête, et l'œuvre qui traduit. Sa quête, ses réflexions, sa sensibilité, et ce que ça donne à voir, c'est la subjectivité qu'il y a dans toute traduction, le fait que c'est une personne qui traduit, une personne qui a sa biographie, qui a ses préoccupations, qui a ses passions et ses intérêts, sa langue évidemment, etc. Et ce livre sur la traduction donne à voir ça aussi, la part d'interprétation qu'il y a dans la traduction, et à travers déjà le personnage de José Rizal et sa personnalité, sa sensibilité, son vécu. Annette parlait justement de sa relation à sa mère, qui est très forte et qui le préoccupe beaucoup. Elle souffre de cataracte et c'est pour elle qu'il devient ophtalmologue, presque, on pourrait dire. Et en même temps, aussi plus loin que sa personne... Pour revenir à ce dont on parlait tout au début de la Révolution, la préoccupation qu'il a par rapport à l'impérialisme espagnol et la situation des Philippins, et comment est-ce qu'il peut entrer en dialogue, c'est une expression que j'aime beaucoup qu'Annette utilise pour parler du dialogue entre José Rizal et Schiller qui s'instaure à travers la traduction.
C'est vrai que ce livre donne envie de lire ou relire Guillaume Tell,
oui.
Bon, de lire et relire votre livre aussi, Annette Hugues. Et juste avoir une question, parce que malheureusement, j'aimerais rester des heures à vous poser des questions. On va finir, mais peut-être qu'on se reverra. Et vous avez présenté ou vous allez présenter le livre aux Philippines, celui-ci?
Je l'ai présenté avant les étudiants d'allemand à l'université des Philippines, c'était super. Oui, parce que ce sont des jeunes gens qui apprennent un allemand magnifique aux Philippines, et ils sont tous des multilingues. Il lance sa langue régionale, il apprend le tagalog, qui est maintenant le filipino. Ils savent très bien l'anglais, et maintenant il apprend l'allemand. Et alors on a beaucoup parlé de cet espace multilingue dans la tête. Et c'était pour moi le bonheur de le présenter là-bas. Oui.
Et puis c'est un bonheur pour nous de le lire aussi, et on va les lire, on va les faire lire, on verra par qui, mais on va l'enregistrer, le texte sonore au monde. C'est un livre qui, en même temps, une réflexion sur la traduction, sur la liberté, et c'est un livre d'aventure aussi. C'est un livre qui fait rêver aussi, ces liens entre les différents univers qui se mêlent. C'est vraiment un très beau livre qui m'a beaucoup plu. Alors, merci beaucoup à Annette Hugues et à Camille Luchère aussi. Merci à vous deux.
Merci, Benino. Merci.